Chapitre 3. Christophe était alors dans un équilibre parfait de toutes les forces de son être. Il ne s'embarrassait pas de discussions esthétiques sur la valeur de telle ou telle forme musicale, ni de recherches raisonnées pour créer du nouveau. Il n'avait même pas besoin de se mettre en peine pour trouver des sujets à traduire en musique. Tout lui était bon. Le flot de musique s'épanchait sans que Christophe sût quel sentiment il exprimait. Il était heureux, voilà tout. Heureux de se répandre, heureux de sentir battre en lui le pouls de la vie universelle. Cette joie et cette plénitude se communiquaient à son entourage. La maison au jardin fermé était trop petite pour lui. Il y avait bien l'échappée sur le parc du couvent voisin, avec la solitude de ses grandes allées et ses arbres centenaires. Mais c'était trop beau pour durer. On était en train de construire, en face de la fenêtre de Christophe, une maison à 6 étages, qui supprimait la vue et achevait le blocus autour de lui. Il avait l'agrément d'entendre grincer des poulies, gratter des pierres et clouer des planches tous les jours du matin au soir. Il retrouva parmi les ouvriers son ami le couvreur, avec qui il avait fait connaissance naguère sur le toit. Ils échangeaient de loin des signes d'intelligence. Même l'ayant rencontré dans la rue, il le mena chez le marchand de vin et ils burent ensemble, à l'étonnement d'Olivier, un peu scandalisé. Il s'amusait du bagout drôlatique de l'homme et de son inaltérable bonne humeur. Mais il ne l'en maudissait pas moins, lui et sa bande d'industrieux animaux, qui élevaient un barrage devant sa maison et lui volaient sa lumière. Olivier ne se plaignait pas trop, il s'accommodait d'un horizon muré. C'était comme le poil de Descartes, d'où la pensée comprimée jaillit vers le ciel libre. Mais Christophe avait besoin d'air. Confiné dans cet étroit espace, il se dédommageait en se mêlant aux âmes de ceux qui l'entouraient. Il les buvait, il les mettait en musique. Olivier lui disait qu'il avait l'air d'un amoureux. « Si je l'étais, répondait Christophe, je ne verrais plus rien, je n'aimerais plus rien, rien ne m'intéresserait en dehors de mon amour. »« Alors, qu'est-ce que tu as ?»« Je suis bien portant, j'ai faim. »« Heureux Christophe, soupirait Olivier, tu devrais bien nous passer un peu de ton appétit. » La santé est contagieuse, comme la maladie. Le premier à en éprouver le bienfait fut Olivier. La force était ce qui lui manquait le plus. Il se retirait du monde parce que les vulgarités du monde l'écœuraient. Avec une vaste intelligence et des dons artistiques peu communs, il était trop délicat pour faire un grand artiste. Le grand artiste n'est pas un dégoûté. La première loi pour tout être sain est de vivre. D'autant plus impérieuse quand il est un génie, car il vit davantage. Olivier fuyait la vie. Il se laissait flotter dans un monde de fiction poétique, sans corps, sans chair, sans réalité. Il était de cette élite qui, pour trouver la beauté, a besoin de la chercher dans les temps qui ne sont plus ou dans ceux qui n'ont jamais été. Comme si la boisson de vie n'était pas aussi enivrante aujourd'hui qu'autrefois. Mais les âmes fatiguées répugnent au contact direct de la vie. Elles ne la peuvent supporter qu'à travers le voile des mirages et les paroles mortes de ceux qui furent autrefois des vivants. L'amitié de Christophe arrachait Olivier peu à peu à ses limbes de l'art. Le soleil s'infiltrait dans les retraites de son âme. L'ingénieur Elsperger était aussi touché par la contagion de l'optimisme de Christophe. On ne remarquait pourtant pas un changement dans ses habitudes. Elles étaient invétérées. Et il ne fallait pas compter que son humeur devint assez entreprenante pour lui faire quitter la France et chercher fortune ailleurs. C'eût été trop demandé. Mais il sortait de son atonie. Il reprenait goût à des recherches, à des lectures, à des travaux scientifiques qu'il avait laissés de côté depuis longtemps. On l'eût bien étonné si on lui avait dit que Christophe était pour quelque chose dans ce réveil d'intérêt à son métier. Et le plus étonné eût été certainement Christophe. De toute la maison, ceux avec qui il se lia le plus vite furent le petit ménage du second. Plus d'une fois, en passant devant leur porte, il avait prêté l'oreille au son du piano, dont la jeune Madame Arnaud jouait avec goût lorsqu'elle était seule. Là-dessus, il leur envoya les billets pour son concert. Ils l'en remercièrent avec effusion. Depuis, il allait de temps en temps chez eux, le soir. Jamais il n'avait pu réentendre la jeune femme. Elle était trop timide pour jouer devant quelqu'un. Même quand elle était seule, maintenant qu'elle savait qu'on pouvait l'entendre de l'escalier, elle mettait la sourdine. Mais Christophe leur faisait de la musique, et ils en causaient longuement. Les Arnauds apportaient à ces entretiens une jeunesse de cœur qui l'enchantait. Ils ne croyaient pas qu'il fût possible des Français d'aimer tant la musique. « C'est, disait Olivier, que tu n'as vu jusqu'ici que les musiciens. » « Je sais bien, répondait Christophe, que les musiciens sont ceux qui aiment le moins la musique. Mais tu ne me feras pas croire que les gens de votre sorte soient légion en France. Quelques milliers. Alors, c'est une épidémie, une mode toute récente ?»«
Ce n'est pas une mode, dit Arnaud. »
Celui, lequel, ayant un doux accord d'instrument où la douceur de la voix naturelle ne s'en réjouit point, ne s'en émeut point, et de tête en pied n'en tressaut point, comme doucement ravi, et s'il ne sait comment dérober hors de soi, c'est signe qu'il a l'âme tortue, vicieuse et dépravée, et duquel il se faut donner garde, comme de celui qui n'est point heureusement né.
« Je connais cela, dit Christophe, c'est de mon ami Shakespeare. »
« Non, dit Arnaud doucement, c'est de notre Ronsard, qui vivait avant lui. Vous voyez que la mode n'est pas d'hier en France. »
Qu'on aimât la musique en France étonnait encore moins Christophe que le fait qu'on y aimât, à peu de choses près, la même musique qu'en Allemagne. Dans le monde des artistes et des snobs parisiens, qu'il avait vu d'abord, il était de bon ton de traiter les maîtres allemands en étrangers de distinction, que l'on ne se refusait pas à admirer, mais qu'on tenait à distance. On ironisait volontiers la lourdeur d'un Gluck, la barbarie d'un Wagner. On leur opposait la finesse française. Et de fait, Christophe avait fini par douter qu'un Français pût comprendre les œuvres allemandes à la façon dont on les exécutait en France. Il était revenu scandalisé d'une représentation de Gluck. Ces ingénieux parisiens ne s'étaient-ils pas avisés de maquiller le terrible vieux? Ils le paraient, ils l'enrubanaient, ils ouataient ses rythmes. Ils attifaient sa musique de teintes impressionnistes, de perversité lascive. Pauvre Gluck! Que restait-il de son éloquence du cœur, de sa pureté morale, de sa douleur toute nue? Était-ce qu'un Français ne pouvait les sentir? Or, Christophe voyait maintenant l'amour profond et tendre de ses nouveaux amis pour ce qu'il y a de plus intime dans l'âme germanique, dans les vieux leaders, dans les classiques allemands. Et il leur demandait s'il n'était donc pas vrai que ces Allemands leur fussent des étrangers et qu'un Français ne pût aimer que les artistes de sa race.
« Ce n'est pas vrai, protestait-il. Ce sont nos critiques qui se permettent de parler en notre nom. Comme ils suivent toujours la mode, ils prétendent que nous la suivions aussi. Mais nous ne nous inquiétons pas plus d'eux qu'ils ne s'inquiètent de nous. Voilà de plaisants animaux qui veulent nous apprendre ce qui est ou n'est pas français, à nous, Français de la vieille France. Ils viennent nous enseigner que notre France est dans Rameau ou dans Racine, et qu'elle n'est pas autre part, comme si Beethoven, Mozart et Gluck ne venaient pas s'asseoir à notre foyer, veiller avec nous au chevet de nos aimés, partager nos peines, ranimer nos espoirs, comme s'ils n'étaient pas devenus de notre famille. Si l'on osait dire ce que l'on pense, ce serait bien plutôt tel artiste français, prôné par nos critiques parisiens, qui serait pour nous un étranger. La vérité, dit Olivier, c'est que s'il y a des frontières en art, elles sont moins des barrières de race que des barrières de classe. Je ne sais pas s'il y a un art français et un art allemand, mais il y a un art des riches et un art de ceux qui ne le sont pas. Gluck est un grand bourgeois, il est de notre classe. Tel artiste français, que je m'abstiendrai de nommer, n'en est point. Bien qu'il soit né bourgeois, il a honte de nous, il nous renie, et nous, nous le renions. Olivier disait vrai. Plus Christophe apprenait à connaître les Français, plus il était frappé des ressemblances entre les braves gens de France et ceux d'Allemagne. Les Arnauds lui rappelaient son cher vieux Schultz, avec son amour si pur, si désintéressé de l'art, son oubli de soi-même, sa dévotion au beau. Et il les aimait en souvenir de lui. En même temps qu'il constatait l'absurdité des frontières morales entre les bonnes gens des races différentes, Christophe vit l'absurdité des frontières entre les pensées différentes des bonnes gens d'une même race. Grâce à lui, et sans qu'il l'eût cherché, deux des hommes qui semblaient le plus loin de se comprendre, l'abbé Corneille et M. Vatelet, firent connaissance. Christophe leur empruntait des livres à tous deux, et avec un sans-gêne qui choquait Olivier,
il les prêtait de l'un à l'autre. L'abbé Corneille n'en était pas scandalisé. Il avait l'intuition des âmes, et sans en avoir l'air, il lisait dans celle de son jeune voisin ce qu'elle avait à son insu de religieux. Un volume de Kropotkin, emprunté à M. Vatelet, et qu'ils aimaient tous trois, pour des raisons diverses, commença leur rapprochement. Le hasard fit qu'un jour, ils se trouvèrent ensemble chez Christophe. Christophe craignait d'abord quelques paroles désobligeantes entre ses hôtes. Tout au contraire, ils se témoignèrent une courtoisie parfaite. Ils causèrent de sujets sans danger, de leur voyage, de leur expérience des hommes. Et ils se découvrirent tous deux pleins de mansuétude, d'esprit évangélique, d'espérance chimérique, malgré toutes leurs raisons de désespérer. Ils se prirent l'un pour l'autre d'une sympathie mêlée de quelque ironie, sympathie très discrète. Jamais il n'était question entre eux du fond de leur croyance. Ils se voyaient rarement et ne le cherchaient point, et quand ils se rencontraient, ils avaient plaisir à se voir. Des deux, le moins indépendant n'était pas l'abbé Corneille. Christophe ne s'y fut pas attendu. Il apercevait peu à peu dans la grandeur de cette pensée religieuse et libre ce puissant et serein mysticisme, sans fièvre, qui pénétrait toutes les pensées du prêtre, tous les actes de sa vie journalière, tout son spectacle de l'univers, qui le faisait vivre en Christ, ainsi que, d'après sa croyance, Christ avait vécu en Dieu. Il ne niait rien, aucune force de vie. Pour lui, toutes les Écritures, anciennes et modernes, religieuses et laïques, de Moïse à Berthelot, étaient certaines, étaient divines, était l'expression de Dieu. L'Écriture sainte en était seulement l'exemplaire le plus riche, comme l'Église était l'élite la plus haute des frères unis en Dieu. Mais ni l'une ni l'autre n'enfermait l'esprit dans une vérité immobile. Le christianisme, c'était Christ vivant. L'histoire du monde n'était que l'histoire de l'agrandissement perpétuel de l'idée de Dieu. La chute du temple juif, la ruine du monde païen, l'échec des croisades, le soufflet de Boniface VIII, Galilée qui rejeta la terre dans l'espace vertigineux, les infiniment petits, plus puissants que les grands, la fin des royautés et celle des concordats, tout cela désorientait pour un temps les consciences. Les uns s'attachaient désespérément à ce qui tombait, les autres prenaient une planche au hasard et allaient à la dérive. L'abbé Corneille se demandait seulement où sont les hommes, où est ce qui les fait vivre, car il croyait où est la vie et Dieu. Et c'est pourquoi il avait de la sympathie pour Christophe. De son côté, Christophe avait plaisir à réentendre la belle musique qu'est une grande âme religieuse. Elle éveillait en lui de lointains et profonds échos. Par ce sentiment de réaction perpétuelle, qui, chez les natures vigoureuses, est un instinct de vie, l'instinct même de la conservation, le coup de rame qui rétablit l'équilibre menacé et imprime à la barque un nouvel élan, l'excès du doute et l'écœurement du sensualisme parisien avaient depuis 2 ans ressuscité Dieu dans le cœur de Christophe. Non pas qu'il crût en lui, il le niait, mais il en était plein. L'abbé Corneille lui disait en souriant que comme le bon géant, son patron, il portait Dieu sans le savoir. « D'où vient alors que je ne le vois pas ?» demandait Christophe. « Vous êtes comme des milliers d'autres, vous le voyez tous les jours sans vous douter que c'est lui. » Dieu se révèle à tous sous des formes diverses, aux uns dans leur vie ordinaire, comme à Saint-Pierre en Galilée, aux autres, à votre ami M. Vatelet, ainsi qu'à Saint-Thomas, dans les plaies et les misères à guérir. À vous, dans la dignité de votre idéal, noli me tangere, un jour vous le reconnaîtrez. « Jamais, jamais je n'abdiquerai, dit Christophe, je suis libre. Vous n'en êtes que davantage avec Dieu, répliquait tranquillement le prêtre. Mais Christophe n'admettait pas qu'on fît de lui un chrétien malgré lui. Il se défendait avec une ardeur naïve, comme s'il pouvait y avoir la moindre importance à ce qu'on attachât à ses pensées une étiquette ou bien une autre. L'abbé Corneille l'écoutait avec un peu d'ironie ecclésiastique, à peine perceptible, et beaucoup de bonté. Il avait une patience inaltérable qui reposait sur l'habitude de sa foi. Les épreuves de l'Église actuelle l'avaient trompé. Tout en jetant sur lui une grande mélancolie, et bien qu'elle l'eusse fait passer par de douloureuses crises morales, elle ne l'atteignait pas au fond. Certes, il était cruel de se voir opprimé par ses chefs, ces démarches épiées par les évêques, guettées par le libre penseur qui cherchait à exploiter ses pensées, à se servir de lui contre sa foi, également incompris et traqué par ses coreligionnaires et par les ennemis de sa religion. Impossible de résister, car il faut se soumettre. Impossible de se soumettre, du cœur, car on sait que l'autorité se trompe. Angoisse de ne pas parler, angoisse de parler et d'être faussement interprété. Sans compter les autres âmes dont on est responsable, ceux qui attendent de vous un conseil, une aide, et que l'on voit souffrir. L'abbé Corneille souffrait pour eux et pour lui, mais il se résignait. Il savait combien peu comptent les jours d'épreuve dans la longue histoire de l'Église. Seulement, à se replier dans sa résignation muette, il s'animait lentement. Il prenait une timidité, une peur de parler, qui lui rendait pénible la moindre démarche, et peu à peu l'enveloppait d'une torpeur de silence. Il s'y sentait tomber avec tristesse, mais sans réagir. La rencontre de Christophe lui fut d'un grand secours. La juvénile ardeur, l'intérêt affectueux et naïf que son voisin lui témoignait, ses questions parfois indiscrètes, lui faisaient du bien. Christophe le forçait à rentrer dans la compagnie des vivants. Aubert, l'ouvrier électricien, se rencontra avec lui chez Christophe. Il fit un haut-le-corps quand il vit le prêtre. Il eut peine à cacher sa répulsion. Même quand ce premier sentiment fut vaincu, il lui en resta un malaise à se trouver avec cet homme enjuponné qui était pour lui un être indéfinissable. Toutefois, le plaisir qu'il avait à causer avec des gens bien élevés l'emporta sur son anticléricalisme. Il était surpris du ton affable qui régnait entre M. Vatelet et l'abbé Corneille. Il ne l'était pas moins de voir un prêtre démocrate et un révolutionnaire aristocrate. Cela renversait toutes ses idées reçues. Il cherchait vainement dans quelle catégorie il pourrait les classer, car il avait besoin de classer les gens pour les comprendre. Il n'était pas facile de trouver un compartiment où ranger la paisible liberté de ce prêtre qui avait lu Anatole France et Renan et qui en parlait librement, avec justice et justesse. En matière de science, l'abbé Corneille avait pour règle de se laisser conduire par ceux qui savaient, plutôt que par ceux qui commandaient. Il honorait l'autorité, mais elle n'était pas, pour lui, du même ordre que la science. Chair, esprit, charité, les trois ordres, les trois degrés de l'échelle divine, l'échelle de Jacob. Naturellement, le brave Aubert était bien loin de soupçonner un tel état d'esprit. L'abbé Corneille disait doucement à Christophe que Aubert lui rappelait des paysans français qu'il avait vus. Une jeune Anglaise leur demandait son chemin. Elle leur parlait anglais. Ils écoutaient sans comprendre. Puis il parlait français. Elle ne comprenait pas. Alors ils la regardaient avec pitié, hochaient la tête et disaient, en reprenant leur travail, « C'est-il malheureux tout de même, une si belle fille !» Dans les premiers temps, Aubert, intimidé par la science et les manières distinguées du prêtre et de M. Vatelet, se tut, buvant leur conversation. Peu à peu, il s'y mêla, cédant au plaisir naïf qu'il avait à s'entendre parler. Il étala son idéologie vague. Les deux autres l'écoutaient poliment, avec un petit sourire intérieur. Aubert, ravi, ne s'en tint pas là. Il usa, et bientôt abusa, de l'inépuisable patience de l'abbé Corneille. Il lui lut ses élucubrations. Le prêtre écoutait, résigné. Cela ne l'ennuyait pas trop, car il écoutait moins les paroles que l'homme. Et puis, comme il disait à Christophe, qui le plaignait, « Bah, j'en entends bien d'autres !» Aubert était reconnaissant à M. Vatelet et à l'abbé Corneille, et tous trois, sans beaucoup s'inquiéter de se comprendre mutuellement, arrivaient à s'aimer, sans trop savoir pourquoi. Ils étaient surpris de se trouver si proches l'un de l'autre. Ils ne l'eussent jamais pensé. Christophe les unissait. Il avait d'innocentes alliées dans les trois enfants, les deux petites Elsberger et la fillette adoptive de M. Vatelet. Il était devenu leur ami. Il avait peine de l'isolement où elle vivait. À force de parler à chacune de la petite voisine inconnue, il leur donna le désir irrésistible de se voir. Elles s'adressaient des signaux par les fenêtres. Elles échangeaient des mots furtifs dans l'escalier. Elles firent tant, secondées par Christophe, qu'elles obtinrent la permission de se rencontrer au Luxembourg. Christophe, heureux du succès de son astuce, alla les y voir. la première fois qu'elles furent ensemble. Il les trouva gauches, empruntées, ne sachant que faire d'un bonheur si nouveau. Il les dégela en un instant. Il inventa des jeux, des courses, une chasse. Il y fit sa partie avec autant de passion que s'il avait 10 ans. Les promeneurs jetaient un coup d'œil amusé sur ce grand garçon qui courait en poussant des cris et tournait autour des arbres, poursuivi par 3 petites filles. Et comme les parents, toujours soupçonneux, se montraient peu disposés à ce que ces parties au Luxembourg se renouvelassent souvent, car ils ne pouvaient les surveiller d'assez près, Christophe trouva moyen de faire inviter les enfants à jouer dans le jardin même de la maison par le commandant Chabran qui habitait au rez-de-chaussée. Le hasard l'avait mis en relation avec lui. Le hasard sait trouver ceux qui savent s'en servir. La table de travail de Christophe était près de sa fenêtre. Le vent emporta quelques feuilles de musique dans le jardin d'en bas. Christophe courut le chercher, nu-tête, débraillé comme il était. Il pensait avoir affaire à un domestique. Ce fut la jeune fille qui lui ouvrit. Un peu interloqué, il lui exposa l'objet de sa visite. Elle sourit et le fit entrer. Ils allèrent dans le jardin. Après qu'il eut ramassé ses papiers, il s'esquivait, et elle le reconduisait, quand ils se croisèrent avec l'officier qui rentrait. Le commandant regarda d'un air surpris cet hôte hétéroclite. La jeune fille le lui présenta en riant. « Ah, c'est vous le musicien, » dit l'officier. « Charmé, nous sommes confrères. » Il lui serra la main. Ils causèrent, sur un ton d'ironie amicale, des concerts qu'ils se donnaient l'un à l'autre, Christophe sur son piano, le commandant sur sa flûte. Christophe voulait partir, mais l'autre ne le lâchait plus. Et il s'était lancé dans des développements à perte de vue sur la musique. Brusquement, il s'arrêta et dit « Venez voir mes canons ». Christophe le suivit, se demandant de quel intérêt pouvait bien être son opinion sur l'artillerie française. L'autre lui montra, triomphant, des canons musicaux, des tours de force, des morceaux qu'on pouvait lire en commençant par la fin, ou bien à 4 mains, en jouant l'un la page à l'endroit, l'autre la page à l'envers. Ancien polytechnicien, le commandant avait toujours eu le goût de la musique, mais ce qu'il aimait surtout en elle, c'était le problème. Elle lui semblait, ce qu'elle est en effet pour une part, un magnifique jeu de l'esprit, et il s'ingéniait à poser et résoudre des énigmes de construction musicale, plus extravagantes et plus inutiles les unes que les autres. Naturellement, il n'avait pas eu beaucoup de temps au cours de sa carrière pour cultiver sa manie, mais depuis qu'il avait pris sa retraite, il s'y donnait avec passion. Il y dépensait l'énergie qu'il avait mise naguère à poursuivre à travers les déserts de l'Afrique les bandes de rois nègres ou à échapper à leurs traquenards. Christophe s'amusa de ses charades et il en posa à son tour une autre plus compliquée. L'officier fut ravi, ils joutèrent d'adresse. Ce fut de part et d'autre une pluie de logogriffes musicaux. Après qu'ils eurent bien joué, Christophe remonta chez lui. Mais dès le matin suivant, il reçut de son voisin un problème nouveau, un véritable casse-tête, auquel le commandant avait travaillé une partie de la nuit. Il y répliqua, et la lutte continua, jusqu'au jour où Christophe, que cela finissait par assommer, se déclara battu, ce qui enchanta l'officier. Il regardait ce succès comme une revanche sur l'Allemagne. Il invita Christophe à déjeuner. La franchise de Christophe, qui trouva détestables ses compositions musicales, et qui poussa les hauts cris, quand Chabran commença à massacrer sur son harmonium un andante de Haydn, acheva de le conquérir. Ils eurent depuis d'assez fréquents entretiens, mais non plus sur la musique. Christophe trouvait un intérêt médiocre à écouter là-dessus des billevesées. Aussi mettait-il de préférence la conversation sur le terrain militaire. Le commandant ne demandait pas mieux. La musique était, pour ce malheureux homme, une distraction forcée. Au fond, il se rongeait. Il se laissa entraîner à compter ses campagnes africaines. Gigantesques aventures, dignes de celles des Pizarres et des Cortés. Christophe voyait revivre avec stupéfaction cette épopée merveilleuse et barbare dont il ne savait rien, que les Français eux-mêmes ignorent presque tous, et où, pendant 20 ans, se dépensèrent l'héroïsme, l'audace ingénieuse, l'énergie surhumaine d'une poignée de conquérants français, perdus au milieu du continent noir, entourés d'armées noires, dépourvus des moyens d'action les plus rudimentaires, agissant constamment contre le gré d'une opinion et d'un gouvernement épeuré, et conquérant à la France, en dépit de la France, un empire plus grand qu'elle. Une odeur de joie puissante et de sang montait de cette action, où surgissaient, aux yeux de Christophe, des figures de modernes condottieries, d'aventuriers héroïques, imprévus dans la France d'aujourd'hui, et que la France d'aujourd'hui rougit de reconnaître. Pudiquement, elle jette sur eux un voile. La voix du commandant sonnait gaillardement en évoquant ses souvenirs. Et il racontait avec une bonhomie joviale, et bizarrement intercalée parmi ses récits épiques, de sages descriptions des terrains géologiques, ses larges randonnées et ses chasses humaines, où il était tour à tour le chasseur et le gibier, dans une partie sans merci. Christophe l'écoutait, le regardait, et il avait compassion de ce bel animal humain, contraint à l'inaction, réduit à se dévorer en des jeux ridicules. Il se demandait comment il avait pu se résigner à ce sort. Il le lui demanda. Sur ses rancœurs, le commandant semblait peu disposé d'abord à s'expliquer avec un étranger. Mais les Français ont la langue longue, surtout lorsqu'il s'agit de s'accuser les uns les autres. « Que voulez-vous que je foute ?» dit-il dans leur armée d'aujourd'hui. « Les marins font de la littérature. Les fantassins font de la sociologie. Ils font de tout, sauf de la guerre. Ils n'y préparent même plus. Ils préparent à ne plus la faire. Ils font la philosophie de la guerre. La philosophie de la guerre. Un jeu d'ânes battus qui méditent sur les coups qu'ils recevront un jour. Discutaillez, philosophaillez, non, ce n'est pas mon affaire. Autant rentrer chez moi et fabriquer mes canons. » Il ne disait point, par pudeur, les pires de ses griefs. La suspicion jetée entre les officiers par l'appel au délateur, l'humiliation de subir les ordres insolents de politiciens ignares et malfaisants, la douleur de l'armée, employée aux basses besognes de police, aux inventaires d'églises, à la répression des grèves ouvrières, au service des intérêts et des rancunes du parti au pouvoir, ces petits bourgeois radicaux et anticléricaux, contre le reste du pays. Et le dégoût de ce vieil Africain pour la nouvelle armée coloniale, recrutée en majeure partie dans les pires éléments de la nation, afin de ménager l'égoïsme des autres, qui refusent de prendre part à l'honneur et au risque d'assurer la défense de la plus grande France, la France d'au-delà des mers. Christophe n'avait pas à se mêler de ces querelles françaises, cela ne le regardait point, mais il sympathisait avec le vieil officier. Quoi qu'il pensât de la guerre, il estimait qu'une armée est faite pour produire des soldats comme un pommier des pommes, et que c'est une aberration d'y greffer des politiciens, des esthètes et des sociologues. Toutefois, il ne comprenait pas que ce vigoureux homme cédât la place aux autres. C'est être son pire ennemi que ne pas combattre ses ennemis. Il y avait chez tous les Français de quelque prix un esprit d'abdication, un renoncement singulier. Christophe le retrouvait, plus touchant, chez la fille de l'officier. Elle se nommait Céline. Elle avait des cheveux fins, tirés à la chinoise, soigneusement peignés, qui découvraient le front haut et rond et l'oreille pointue, les joues maigres, le menton gracieux, d'une élégance rustique, de beaux yeux noirs, intelligents, confiants, très doux, des yeux de myope, le nez un peu gros, une petite mouche au coin de la lèvre supérieure, un sourire silencieux qui lui faisait avancer gentiment, avec une aimable moue, la lèvre inférieure un peu gonflée. Elle était bonne, active, spirituelle, mais d'une extrême incuriosité d'esprit. Elle lisait peu, ne connaissait aucun livre nouveau, n'allait jamais au théâtre, ne voyageait jamais. Cela ennuyait le père qui avait trop voyagé autrefois. Ne prenait part à aucune œuvre de philanthropie mondaine, son père les critiquait, n'essayait point d'étudier. Il se moquait des femmes savantes, ne bougeait guère de son carré de jardin, au fond des quatre grands murs, comme d'un énorme puits. Elle ne s'ennuyait pas trop. Elle s'occupait comme elle pouvait, et elle était résignée avec bonne humeur. Il s'exhalait d'elle et du petit cadre que toute femme se crée inconsciemment, en quelque lieu qu'elle se trouve, une atmosphère à la Chardin. Ce tiède silence, ce calme des figures et des attitudes attentives, un peu engourdies, à leur tâche habituelle. La poésie de l'ordre quotidien, de la vie accoutumée, des pensées et des gestes prévus, prévus à la même heure et de la même façon, et qui n'en sont pas moins aimés, avec une pénétrante et tranquille douceur. Cette sereine médiocrité des belles âmes bourgeoises, conscience, honnêteté, vérité, calme travaux, calme plaisir et pourtant poétique. une élégance saine, la lavande, une propreté morale et physique. Cela sentait le bon pain, la droiture, la bonté. Paix des choses et des gens, paix des vieilles maisons et des âmes souriantes. Christophe, dont l'affectueuse confiance attirait la confiance, était devenu très ami avec elle. Il causait assez librement. Il finit même par lui poser des questions auxquelles elle s'étonnait de répondre. Elle lui disait des choses qu'elle n'avait dites à aucun autre. « C'est, expliquait Christophe, que vous ne me craignez pas. Il n'y a pas de risque que nous nous aimions. Nous sommes trop bons amis pour cela. » « Que vous êtes gentille, répondait-elle en riant. Sa saine nature répugnait, autant que celle de Christophe, à l'amitié amoureuse, cette forme de sentiment cher aux âmes équivoques, qui biaise toujours avec ce qu'elles sentent. Ils étaient de bons camarades. Il lui demanda un jour ce qu'elle pouvait bien faire, certain après-midi qu'il la voyait, au jardin, assise sur un banc, son ouvrage sur ses genoux, se gardant d'y toucher, immobile pendant des heures. Elle rougit et protesta que ce n'était pas pendant des heures, mais pendant quelques minutes de temps en temps, un bon petit quart d'heure, pour continuer son histoire. Quelle histoire ? L'histoire qu'elle se contait. Vous vous contez des histoires ? Oh, racontez-les-moi ! Elle lui dit qu'il était trop curieux. Elle lui confia seulement que c'était des histoires dont elle n'était pas l'héroïne. Il s'en étonna, à tant faire que se raconter des histoires. Il me semble qu'il serait plus naturel de se raconter sa propre histoire, embellie, de se rêver dans une vie plus heureuse. « Je ne pourrais pas, dit-elle. Si je le faisais, cela me désespérerait. » Elle rougit de nouveau d'avoir livré un peu de son âme cachée. Et elle reprit. « Et puis, quand je suis au jardin, et qu'il m'arrive une bouffée de vent, je suis heureuse. Le jardin me paraît vivant. Et quand le vent est sauvage, qu'il vient de loin, il dit tant de choses. » Christophe apercevait, en dépit de sa réserve, le fond de mélancolie que recouvrait sa bonne humeur et cette activité dont elle n'était pas dupe, qui ne menait à rien. Pourquoi ne cherchait-elle pas à s'affranchir? Elle eût été si bien faite pour une vie active et utile. Elle alléguait l'affection de son père, qui n'entendait pas qu'elle se séparât de lui. En vain, Christophe protestait que l'officier, vigoureux et énergique, n'avait pas besoin d'elle. Qu'un homme de cette trempe pouvait rester seul, qu'il n'avait pas le droit de la sacrifier. Elle prenait la défense de son père. Par un pieux mensonge, elle prétendait que ce n'était pas lui qui la forçait à rester, qu'elle n'aurait pu se décider à le quitter. Et, dans une certaine mesure, elle disait vrai. Il semblait entendu, de toute éternité, pour elle, pour son père, pour tous ceux qui l'entouraient, que les choses devaient être ainsi et ne pouvaient être autrement. Elle avait un frère marié qui trouvait naturel qu'elle se dévouât à sa place auprès du père. Lui-même n'était occupé que de ses enfants. Il les aimait jalousement, il ne leur laissait aucune initiative. Cet amour était pour lui, et surtout pour sa femme, une chaîne volontaire qui pesait sur leur vie, ligotait leurs mouvements. On eût dit que du moment qu'on avait des enfants, la vie personnelle fut finie et qu'on dut renoncer pour toujours à son propre développement. Cet homme actif, intelligent, encore jeune, calculait les années de travail qui lui restaient avant de prendre sa retraite. Ces excellentes gens se laissaient animer par l'atmosphère d'affection familiale, si profonde en France, mais si étouffante. D'autant plus oppressive que ces familles françaises sont réduites au minimum, père, mère, un ou deux enfants. Amour frileux, peureux, ramassé sur lui-même, comme un avare qui serre sa poignée d'or. Une circonstance fortuite, en intéressant davantage Christophe à Céline, lui montra ce resserrement des affections françaises, cette peur de vivre et de prendre ce qui est son bien. L'ingénieur Elsberger avait un frère cadet, de 10 ans moins âgé, ingénieur comme lui. Brave garçon, ainsi qu'il y en a tant, de bonne famille bourgeoise, avec des aspirations artistiques. Il voudrait bien faire de l'art, mais il ne voudrait pas compromettre leur situation bourgeoise. À la vérité, ce n'est point un problème très difficile, et la plupart des artistes d'à présent l'ont résolu sans risque. Encore faut-il le vouloir, et de ce pauvre effort d'énergie, tous ne sont pas capables. Ils ne sont pas assez sûrs de vouloir ce qu'ils veulent, et à mesure que leur situation bourgeoise devient plus assurée, ils s'y laissent couler, sans révolte et sans bruit. On ne saurait les en blâmer, s'ils étaient de bons bourgeois au lieu de méchants artistes. Mais de leur déception, il leur reste souvent un mécontentement secret, un qualis artifex pereo, qui se recouvre tant bien que mal de ce qu'on est convenu d'appeler de la philosophie et qui leur gâte la vie jusqu'à ce que l'usure des jours et les soucis nouveaux aient effacé la trace de la vieille amertume. Tel était le cas d'André Elsberger. Il eut voulu faire de la littérature, mais son frère, très entier dans ses façons de penser, avait voulu qu'il entrât, comme lui, dans la carrière scientifique. André était intelligent, passablement doué pour les sciences, ou les lettres, indifféremment. Il n'était pas assez sûr d'être un artiste, et il était trop sûr d'être un bourgeois. Il s'était plié, provisoirement d'abord, on sait ce que ce mot veut dire, à la volonté de son frère. Il était entré à Centrale, dans un rang pas très bon, en était sorti de même, et depuis, il faisait son métier d'ingénieur, avec conscience, mais sans aucun intérêt. Naturellement, il avait perdu ainsi le peu de ses dispositions artistiques. Aussi n'en parlait-il qu'avec ironie. Et puis, disait-il, Christophe reconnaissait dans ce raisonnement la façon pessimiste d'Olivier, la vie ne valait pas la peine qu'on se tourmentât pour une carrière ratée. Un mauvais poète de plus ou de moins. Les deux frères s'aimaient. Ils avaient la même trempe morale. Mais ils s'entendaient mal ensemble. Tous deux avaient été dreyfusistes. Mais André, attiré par le syndicalisme, était antimilitariste. Et Élie, patriote. Il arrivait qu'André fit visite à Christophe sans aller voir son frère. Et Christophe s'en étonnait. Car il n'existait pas grande sympathie entre lui et André. Celui-ci ne parlait guère que pour se plaindre de quelqu'un ou de quelque chose, ce qui était lassant, et quand Christophe parlait, André ne l'écoutait pas. Aussi Christophe ne cherchait-il plus à lui cacher que ses visites lui paraissaient oiseuses. Mais l'autre n'en tenait pas compte, il ne semblait pas s'en apercevoir. Enfin, Christophe saisit le mot de l'énigme, un jour qu'il remarqua que son visiteur était penché à la fenêtre, et beaucoup plus occupé à ce qui se passait dans le jardin du bas que de ce qu'il lui disait. Il le lui fit observer, et André n'eut pas de peine à convenir qu'en effet, il connaissait Mademoiselle Chabran, et qu'elle était pour quelque chose dans les visites qu'il faisait à Christophe. Et sa langue se déliant, il avoua qu'il avait pour la jeune fille une vieille amitié, et peut-être quelque chose de plus. La famille Elsberger était liée depuis longtemps avec celle du commandant. Mais, après avoir été très intime, la politique les avait séparés, et depuis elle ne se voyait plus. Christophe ne cacha point qu'il trouvait cela idiot. Ne pouvait-on pas penser, chacun à sa guise, et continuer de s'estimer? André protesta de sa liberté d'esprit, mais il accepta de sa tolérance deux ou trois questions, sur lesquelles, selon lui, il n'était pas permis d'avoir un avis différent du sien, et il nomma la fameuse affaire. Là-dessus, il déraisonna comme c'est l'usage. Christophe connaissait l'usage. Il n'essaya point de discuter. Mais il demanda si cette affaire ne finirait pas un jour, ou si sa malédiction devait s'étendre jusqu'à la fin des temps sur les enfants des enfants de nos petits-enfants. André se mit à rire, et sans répondre à Christophe, il fit un éloge attendri de Céline Chabran, accusant l'égoïsme du père qui trouvait naturel qu'elle se sacrifiât à lui. « Que ne l'épousez-vous, dit Christophe, si vous l'aimez et si elle vous aime ?» André déplora que Céline fût cléricale. Christophe demanda ce que cela voulait dire. L'autre répondit que cela signifiait « pratiquer la religion, s'inféoder à un dieu et à ses bonzes ». « Et qu'est-ce que cela peut vous faire ? Cela me fait que je ne veux pas que ma femme soit à un autre qu'à moi. Comment ? Vous êtes jaloux même des idées de votre femme ? Mais vous êtes plus égoïste encore que le commandant. Vous en parlez à votre aise. Est-ce que vous prendriez, vous, une femme qui n'aimerait pas la musique ? Cela m'est arrivé déjà. » Comment peut-on vivre ensemble si l'on ne pense pas de même? Laissez donc votre pensée tranquille. Ah, mon pauvre ami, toutes les idées ne comptent guère quand on aime. Qu'ai-je à faire que la femme que j'aime aime comme moi la musique? Elle est pour moi la musique. Quand on a, ainsi que vous, la chance de trouver une chère fille qu'on aime et qui vous aime, qu'elle croit tout ce qu'elle veut et croyez tout ce que vous voudrez. Au bout du compte, toutes vos idées se valent. Et il n'y a qu'une vérité au monde, c'est de s'aimer. Vous parlez en poète, vous ne voyez pas la vie. Je connais trop de ménages qui ont eu à souffrir de cette désunion d'esprit. C'est qu'ils ne s'aimaient pas assez. Il faut savoir ce qu'on veut. La volonté ne peut pas tout. Quand je voudrais épouser Mademoiselle Chaperon, je ne le pourrais pas. Je voudrais bien savoir pourquoi. André parla de ses scrupules. Sa situation n'était pas faite, pas de fortune, peu de santé. Il se demandait s'il avait le droit de se marier. Grande responsabilité. Ne risquait-il pas de faire le malheur de celle qu'il aimait, et le sien, sans parler des enfants à venir? Il valait mieux attendre ou renoncer. Christophe haussa les épaules. Belle façon d'aimer. Si elle aime, elle sera heureuse de se dévouer. Et quant aux enfants, vous, Français, vous êtes ridicules. Vous voudriez n'en lâcher dans la vie que si vous êtes sûr d'en faire de petits rentiers dodus qui n'aient rien à souffrir. Que diable, cela ne vous regarde pas. Vous n'avez qu'à leur donner la vie, l'amour de la vie et le courage de la défendre. Le reste, qu'ils vivent, qu'ils meurent, c'est le sort de tous. Vaut-il donc mieux renoncer à vivre que courir les chances de la vie? La robuste confiance qui émanait de Christophe pénétrait son interlocuteur, mais ne le décidait point. Il disait « Oui, peut-être », mais il en restait là. Il semblait, comme les autres, frappé d'une incapacité de vouloir et d'agir. Christophe entreprit le combat contre cette inertie qu'il retrouvait chez la plupart de ses amis français, bizarrement accouplé à une activité laborieuse et très souvent fiévreuse. Presque tous ceux qu'il voyait dans les divers milieux bourgeois étaient des mécontents. Presque tous avaient le même dégoût pour les maîtres du jour et pour leurs pensées corrompues. Presque tous la même conscience triste et fière de l'âme trahie de leur race. Et ce n'était pas le fait de rancune personnelle. L'amertume d'hommes et de classes vaincus, évincés du pouvoir et de la vie active, fonctionnaires révoqués, énergie sans emploi, vieille aristocratie retirée sur ses terres et se cachant pour mourir comme un lion blessé. C'était un sentiment de révolte morale, sourd, profond, général. On le rencontrait partout, dans l'armée, dans la magistrature, dans l'université, dans les bureaux, dans tous les rouages vitaux de la machine gouvernementale. Mais ils n'agissaient point, ils étaient découragés d'avance. Ils répétaient « il n'y a rien à faire ». Et, détournant peureusement des choses tristes leurs pensées, leurs propos, ils cherchaient un refuge dans la vie domestique. S'il ne s'était retiré que de l'action politique, mais même dans le cercle de son action journalière, chacun de ces honnêtes gens se désintéressait d'agir. Il tolérait des promiscuités avilissantes avec des misérables qu'il méprisait, mais contre qui il se gardait d'engager la lutte, la jugeant inutile. Pourquoi ces artistes, par exemple, ces musiciens que connaissait Christophe, supportaient-ils sans protester l'effronterie des scaramouches de la presse qui leur faisait la loi? Il y avait là des ânes battés dont l'ignorance in omni re scibili, tout ce que l'homme peut savoir, était proverbial et qui n'en était pas moins investi d'une autorité souveraine in omni re scibili. Ils ne se donnaient même pas la peine d'écrire leurs articles ni leurs livres. Ils avaient des secrétaires, de pauvres gueux affamés qui eussent vendu leur âme, s'ils en avaient possédé une, pour du pain et des filles. Ce n'était un secret pour personne à Paris, et cependant, ils continuaient de trôner, ils traitaient de haut en bas les artistes. Christophe en criait de rage, quand il lisait certaines de leurs chroniques. « Oh, les lâches » disait-il. « À qui en as-tu ? » demandait Olivier. « Toujours à quelques drôles de la foire sur la place ? » Non. Aux honnêtes gens. Les gredins font leur métier. Ils mentent, ils pillent, ils volent, ils assassinent. Mais les autres, ceux qui les laissent faire, tout en les méprisant, je les méprise mille fois davantage. Si leurs confrères de la presse, si les critiques propres et instruits, si les artistes, sur le dos desquels ces arlequins s'escriment, ne les laissaient faire, en silence, par timidité, par peur de se compromettre, ou par un honteux calcul de ménagement réciproque, par un pacte secret conclu avec l'ennemi pour rester à l'abri de ses coups, s'ils ne les laissaient se parer de leur patronage et de leur amitié, cette puissance effrontée tomberait sous le ridicule. C'est la même faiblesse dans tous les ordres de choses. J'ai rencontré 20 braves gens qui m'ont dit d'un individu « c'est un drôle ». Il n'y en avait pas un qui ne lui donna du « cher confrère » et ne lui serra la main. « Ils sont trop, disent-ils. Trop de pleutres, oui. » Trop de lâches honnêtes gens. Et que veux-tu qu'on fasse? Faites votre police vous-même. Qu'attendez-vous? Que le ciel se charge de vos affaires? Tiens, regarde en ce moment. Voici 3 jours que la neige est tombée. Elle encombre vos rues. Elle fait de votre Paris un cloaque de boue. Que faites-vous? Vous vous récriez contre votre administration qui vous laisse dans l'ordure. Mais vous, essayez-vous d'en sortir? Qu'à Dieu ne plaise, vous vous croisez les bras. Aucun n'a le cœur de dégager seulement le trottoir devant sa maison. Personne ne fait son devoir, ni l'État, ni les particuliers. L'un et l'autre se croient quittes en s'accusant mutuellement. Vous êtes tellement habitués par vos siècles d'éducation monarchique à ne rien faire par vous-même que vous avez toujours l'air de bâiller aux corneilles dans l'attente d'un miracle. Le seul miracle possible, ce serait que vous vous décidiez à agir. Vois-tu, mon petit Olivier, vous avez de l'intelligence et des vertus à revendre, mais le sang vous manque. À toi tout le premier. Ce n'est ni l'esprit ni le cœur qui est malade chez vous, c'est la vie. Elle s'en va. Qu'y faire? Il faut attendre qu'elle revienne. Il faut vouloir qu'elle revienne. Il faut vouloir. Et pour cela, d'abord, il faut faire rentrer chez vous l'air pur. Quand on ne veut pas sortir de sa maison, au moins faut-il que sa maison soit saine. Vous l'avez laissée empestée par les miasmes de la foire. Votre art et votre pensée sont aux 2/3 adultérés. Et votre découragement est tel que vous ne songez pas à vous en indigner, à peine à vous en étonner. Quelques-uns même de ces absurdes braves gens, intimidés, finissent par se persuader que ce sont eux qui ont tort et que ce sont les charlatans qui ont raison. N'ai-je pas rencontré, à ta revue Ésope, où vous faites profession de n'être dupe de rien, de ces pauvres jeunes gens qui se persuadent qu'ils aiment un art qu'ils n'aiment point? Ils s'intoxiquent sans plaisir par servile moutonnerie, et ils meurent d'ennui dans leurs mensonges. Christophe passait au milieu des incertains comme le vent qui secoue les arbres endormis. Il n'essayait pas de leur inculquer sa pensée, il leur soufflait l'énergie de penser par eux-mêmes. Il disait « Vous êtes trop humbles. Le grand ennemi, c'est le doute neurasthénique. On peut, on doit être tolérant et humain. Mais il est interdit de douter de ce qu'on croit bon et vrai. Ce qu'on croit, on doit le défendre. Quelles que soient nos forces, il nous est interdit d'abdiquer. Le plus petit en ce monde a un devoir à l'égal du plus grand. Et, ce qu'il ne sait pas, il a aussi un pouvoir. Ne croyez pas que votre révolte isolée soit vaine. Une conscience forte et qui ose s'affirmer est une puissance. Vous avez vu plus d'une fois, dans ces dernières années, l'État et l'opinion forcés de compter avec le jugement d'un brave homme qui n'avait d'autres armes que sa force morale, affirmée publiquement avec ténacité. Et si vous vous demandez à quoi bon se donner tant de peine, à quoi bon lutter, à quoi bon, eh bien, sachez-le, parce que la France meurt, parce que l'Europe meurt, parce que notre civilisation, l'œuvre admirable édifiée, au prix de souffrances millénaires par notre humanité, s'engloutira si nous ne luttons. La patrie est en danger, notre patrie européenne. Et plus que toute, la vôtre, votre petite patrie française. Votre apathie la tue. Elle meurt dans chacune de vos énergies qui meurent, de vos pensées qui se résignent, de vos bonnes volontés stériles, dans chaque goutte de sang qui se tarit inutile. Debout, il faut vivre. Ou si vous devez mourir, vous devez mourir debout.